Alors, c'était dit ce matin, le thème de culte qui est proposé par notre fédération, ce dimanche des solidarités, c'est « Jamais trop petit ». Il y a aussi le slogan « Jeunes et vieux » qui a été répété, parce que « Jamais trop jeune, jamais trop petit, jamais trop vieux ». Je veux prendre le versant aujourd'hui, maintenant, « Jamais trop petit » de ce thème. Et le texte qui nous est proposé pour creuser ce sujet se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Jésus lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens, autant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Et il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. On donne à cet épisode et à un autre qui un peu similaire, qui intervient un peu plus tard, le titre de multiplication des pains. Et au sens arithmétique, nous savons bien ce qu'est le mot multiplication signifie, d'autant plus que nous avons probablement tous été soumis au rude apprentissage des tables de multiplication. Si on peut mettre en route le PowerPoint. Voilà, merci. Donc, une multiplication consiste à effectuer une opération entre deux nombres, de multiplier l'un par l'autre. Si par exemple je veux connaître le nombre de chaises contenues dans cette pièce, je n'ai pas besoin de les compter une par une, il suffit que je compte le nombre de chaises par rangée, que je compte le nombre de rangées, et ensuite, valable ici un peu moins là, parce que les rangées ne sont pas les mêmes, mais là je crois que c'est à peu près ça, et ensuite, donc, je fais l'opération de multiplication et je connais le nombre qu'il y a de chaises dans cette zone-là. Et généralement, bien sûr, dans une multiplication, on s'attend à un résultat supérieur à l'arrivée, aux chiffres initiaux, mais il y a des cas où le résultat est inférieur à l'un des deux nombres, et c'est le cas en particulier quand un des deux nombres est inférieur à 1. Et plus encore, bien sûr, si les deux nombres sont inférieurs à 1. Et un exemple, si je veux connaître le nombre de litres de vin contenu dans 10 bouteilles de 75 centilitres, 10 fois 0,75, j'arrive à 7,5 litres, donc un nombre inférieur au nombre de bouteilles dont je dispose. Et donc nous allons appliquer ceci à la situation présente. Nous avons, nous est-il dit, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ça, c'est la précision que nous donne Matthieu. Je pense que c'est la coutume de l'époque. On devait dénombrer les gens, sans compter les femmes et les enfants, en appliquant très probablement un coefficient multiplicateur plus ou moins standard, je ne sais pas, pour connaître les besoins exacts. Et aujourd'hui, peut-être, on dirait 5000 foyers. Ce qui signifie que le nombre de personnes à nourrir est sensiblement supérieur. Et c'est là que va intervenir un petit peu notre calcul d'estimation. 5000 hommes, donc évidemment 5000 bouches d'hommes. Après, essayons de compter les femmes. Alors, je pars du principe qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a certainement des hommes sans femmes, mais il y a aussi des femmes sans hommes. J'ai la petite idée qu'il y aurait peut-être plus de femmes que d'hommes, mais bon, partons du principe qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et si on s'en réfère aux tables, je suis parti des chiffres qui concernent les besoins caloriques d'une femme par rapport à un homme, hein, 80%, ce qui représenterait 5 000 femmes représenteraient 4 000 bouches équivalent hommes. Ce sont des hypothèses, hein, vous avez compris. Ensuite, on a les enfants. Alors, même chose, je pars sur une hypothèse, le principe qu'il y ait 10 000 enfants, c'est-à-dire 2 enfants par foyer. Il me semble, à cette époque, on faisait plus d'enfants qu'aujourd'hui. Et toujours selon les tables de besoins caloriques, journalier, en faisant la moyenne autour d'un enfant autour de 10 ans, 70% d'une bouche homme, ce qui représente 7000 bouches équivalent homme, soit un total de 16000 bouches équivalent homme. Si maintenant nous partons d'une autre hypothèse, alors ça fait beaucoup d'hypothèses, et forcément, si ces hypothèses ne sont pas tout à fait justes, à l'arrivée, le nombre, le résultat va dériver. Hein, mais bon, il faut partir de quelque chose. Admettons qu'un homme consomme 0,1 demi-pain par repas. Vous allez me dire, tout dépend de la taille du pain, évidemment. Je ne connais pas la taille du pain. Bon, on part de quelque chose. On a un besoin de 16 000 pains. On a besoin de nourrir 16 000 bouches. On a besoin de 16 000 pains multipliés par un demi-pain pour nourrir les 16 000 bouches avec un demi-pain. Ça veut dire qu'on a un besoin de 8 000 pains. Au départ, on en avait 5. Le rapport de multiplication, on arrive au terme de notre calcul, est de 8000 divisé par 5, soit 1600. Ainsi, donc, Jésus aurait multiplié les pains par 1600. Hypothèse. Je vous fais grâce des 12 paniers qui restent à la fin. Ce que nous retiendrons, c'est ce chiffre de 1600. Et je ne prétends pas qu'il est exact, vous l'avez compris, ça peut être la moitié, ça peut être le double, et même plus ou moins que ça, mais c'est un ordre de grandeur. Ce que nous retenons surtout, c'est que ce chiffre est considérable. Par son ordre de grandeur, il exclut toute autre explication qu'une intervention miraculeuse de Jésus, accomplie par Jésus. Et il y a ici, nous dit André, un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et André est aussitôt vaincu par la réalité. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde? Est-ce que dans sa tête, il a commencé d'envisager l'opération inverse, c'est-à-dire la division? 5 pains divisé par 16 000. 2 poissons divisés par 16 000. Pas besoin d'aller plus loin, il voit bien que c'est la misère. Et quant à l'addition, il semble qu'elle a déjà été faite, puisque dans le passage parallèle de Matthieu, on voit que les disciples ont fait l'inventaire de toutes les ressources et que ces 5 pains et ces 2 poissons représentent la totalité des ressources. Plus rien à espérer de ce côté-là. Et donc la multiplication, c'est la seule solution. Mais manifestement, elle n'est pas à la portée des hommes. Les hommes additionnent leurs ressources de tous ordres, leurs dons, leurs compétences, leurs heures, leurs finances, leurs moyens. Et avec tout ça, ils arrivent quand même à faire de belles choses, mais à Dieu seul appartient la capacité de multiplier ce qui ne représente presque rien par sa puissance infinie. Et rappelez-vous, lorsque nous avions passé notre week-end d'église avec Chris Short. Il nous avait déjà sensibilisé avec ses calculs, avec des opérateurs infinis. Hein. On se souvient de son slogan, 1 plus infini égale infini. Si nous considérons ce bâtiment que nous avons inauguré la semaine dernière comme étant seulement la somme des ressources que nous y avons engagées, alors peut-être nous risquons de passer à côté de la dimension infinie par laquelle Dieu les a multipliées, ces ressources. Et cette dimension infinie se manifeste dans sa providence, dans sa fidélité, dans son amour toujours renouvelé, dans l'accomplissement de ses promesses. Et cette dimension infinie a aussi pour effet de mettre en évidence la petitesse de nos ressources. 5 pains, 2 poissons, 12 apôtres, 120 disciples, juste après l'ascension de Jésus. Et tout ça pour faire des nations, de toutes les nations des disciples, une misère. Et pourtant, quelques années plus tard, en une journée, 3000 nouveaux disciples. Enfin, quelques années, quelques jours plus tard, si on part de l'épisode où ils sont réunis à 120, 3000 nouveaux disciples, et j'ai fait le calcul, la multiplication, ça fait une multiplication par 26. Alors, pour autant, ces 5 pains, ces 2 poissons, ces 12 apôtres, ces 120 disciples, Dieu ne les a pas écartés d'un revers de main. Il est parti de cela, de ce que ces gens lui ont mis entre les mains, leurs ressources et leurs personnes. L'intitulé de cette journée, on l'a déjà dit, « Jamais trop petit ». Mais il est bien sous-entendu que c'est jamais trop petit pour Dieu, jamais trop petit avec Dieu, jamais trop petit dans les mains de Dieu. L'histoire est remplie de ce que les hommes et les femmes de tous âges, toutes origines, toutes conditions ont mis entre les mains de Dieu, a commencé par eux-mêmes, l'a multiplié d'une manière dont la grandeur allait au-delà de toute attente. « Je ne sais pas parler, je suis trop jeune », dit, protestait Jérémie en réponse à l'appel de Dieu. « Ne prétends pas que tu es trop jeune », lui répond l'Éternel. « Oh non, Dieu ne va pas le bercer d'illusions sur sa capacité, mais l'enjoindre à ne pas se chercher de prétexte pour se dérober. Tu seras toujours trop petit pour mon œuvre. Croirais-tu par hasard que je suis tellement démuni que j'en suis réduit à m'en remettre à ta jeunesse? Ou peut-être tu t'imagines que si tu étais moins jeune, plus expérimenté, tu serais plus à la hauteur de la situation? Que si tu étais plus instruit, plus brillant, plus éloquent, je pourrais tirer un meilleur parti de toi? Que si tu étais plus riche, ton offrande me procurerait plus de moyens? Sur qui est-ce que tu comptes? Sur toi ou sur moi? Tu as bien raison de te sentir trop petit. Tu seras toujours trop petit, évidemment. Mais à qui revient-il d'être à la hauteur de la situation? À toi ou à moi? Ce que je vais réaliser ne sera-t-il pas plus grand et plus glorieux, précisément parce que tu es jeune, parce que tu es vieux, parce que tu es malade, timide, faible? Notre texte de la multiplication des pains met en évidence 3 formes de petitesse. La première forme, nous la voyons sous l'image de ce garçon, la personne de ce garçon, qui ne fait pas encore partie, de ce jeune garçon qui ne fait pas encore partie du monde des adultes. Il a dans les mains une infime partie de ce qui serait nécessaire pour répondre aux besoins. On ne sait pas ni qui, ni où sont ses parents, qu'est-ce qu'il fait ici, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Manifestement, c'est beaucoup trop pour lui. Et peut-être avait-il pour ordre de les remettre à quelqu'un de sa famille. Comment vit-il que tous lorgnent sur ses victuailles? Est-ce qu'il est pleinement disposé à prendre le risque de s'en dépouiller? Est-ce que d'ailleurs on va lui demander son avis? Quel regard porte-t-il, lui, sur ce Jésus? Et effectivement, ce garçon semble accessoire dans le récit. Et d'ailleurs, les autres récits, les autres évangiles ne le mentionnent même pas. Il est l'image même de ces petits qui passent en dessous des radars de l'estime des autres. Et pourtant, ce sont ces ressources dont Jésus s'est servi et qu'il a multipliées. La deuxième forme de petitesse, nous en avons parlé, c'est la ressource elle-même, presque rien. Le besoin est immense et les ressources sont dérisoires. Mais n'est-ce pas ce que nous lisons dans le bulletin de porte ouverte, couramment, dans les revues missionnaires, dans les rapports des ONG chrétiennes humanitaires? Est-ce que cette disproportion les arrête? Dieu cesse-t-il d'agir? Se détourne-t-il de ceux qui n'ont que peu de ressources à lui confier? La troisième forme de petitesse, nous la constatons chez les disciples. Eux, ils sont désemparés. On pourrait aussi bien dire écrasés, tant ils réalisent d'un coup le poids de la responsabilité qui leur incombe. Bien sûr, c'est pas eux qui a suscité l'intérêt de cette foule, c'est Jésus, mais elles semblent tellement surgir de toutes parts et se sentent concernées. Ils ont participé à cet engouement. Leur présence à leur côté les engage. À ses côtés, aux côtés de Jésus, les engage. Comment faire face? Comment ne pas se couvrir de ridicule? Encore se faire traiter d'irresponsable, d'incompétent, d'amateur. Notre préfet a évoqué lors de l'inauguration samedi dernier cette tension vécue par les autorités, particulièrement en ce moment, à se trouver aux prises de la cible de toute critique. Comme si ça ne suffisait pas, Jésus les met au pied du mur en s'adressant à Philippe. C'est où qu'on va acheter à manger pour tous ces gens? Jean nous livre une explication dont Philippe ne disposait pas. Par cette question, Jésus, qui savait bien sûr ce qu'il allait accomplir, le miracle qu'il allait accomplir, met Philippe à l'épreuve. Et là, le lobe du calcul mental, du calcul arithmétique de Philippe entre en action et transforme le besoin matériel en espèce sonnante et trébuchante. À quoi correspond ce chiffre de 200 deniers, 200 pièces d'argent suivant les traductions qu'il avance? En guise de repère, une pièce d'argent, un denier, correspondrait à une journée de travail, au salaire d'une journée de travail pour un ouvrier de l'époque. À quoi correspond ce chiffre, 200 deniers? Est-ce que c'est la somme nécessaire qu'il estime nécessaire pour nourrir les besoins de cette foule? J'ai un peu de mal avec cette idée, je vous avoue, parce que donc 200 deniers correspondraient à 200 jours de salaire d'un ouvrier de l'époque, c'est-à-dire environ 8 mois de travail, bon, très bien. 200 jours de travail pour nourrir 16 000 bouches, je repars dans les calculs. Ça veut dire qu'une journée de travail d'une personne permettrait de nourrir 80 personnes pour un repas. Et même si on renonçait à notre chiffre de 16 000 bouches, qu'on parle seulement des 5 000 qui sont mentionnés, ça signifierait qu'on pourrait nourrir 25 personnes avec une seule journée de travail. Ça veut dire que seulement 4% du budget journalier suffirait pour un repas pour une personne. Je trouve que c'est quand même peu, bien peu, surtout pour l'époque où quand même l'alimentation quotidienne représentait une part importante du budget. Alors, Moi, je pencherais plutôt pour l'idée que Philippe donne là le montant de ce que les disciples ont rassemblé dans la bourse commune, puisque nous avons appris l'existence de cette bourse commune en même temps que l'indélicatesse de Judas, qui en était le trésorier. Et cette hypothèse se renforce dans mon esprit par sa réponse rapide et cinglante, on n'a pas assez d'argent pour nourrir tous ces gens, loin s'en faut. Sauf que ça ne répond pas tout à fait à la question de Jésus, qui ne demandait pas combien d'argent il faudrait pour acheter toute cette nourriture, mais textuellement, où l'acheter. Et ça, c'est encore un autre défi, hein, au moins aussi important que les ressources financières, parce qu'à supposer qu'on dispose de l'argent nécessaire, probablement beaucoup plus que 200 deniers, pour nourrir ces 16 000 bouches, où les trouver, où trouver la nourriture à acheter comme ça, pour 16 000 personnes, 16 000 bouches au pied levé. Et c'est là qu'on comprend peut-être en quoi consiste l'épreuve à laquelle Jésus soumet Philippe. Jésus ne pose pas la question en termes de ressources, mais en termes de mode d'action. Comment allons-nous nous y prendre? Et comme très souvent, pour la plupart d'entre nous, Philippe est tétanisé par l'ampleur du défi. Et par contre, peut-être chez André, on peut reconnaître une tentative d'entrer dans la perspective de Jésus quand il évoque les cinq pains et les deux poissons. On a bien cinq pains et deux poissons. Est-ce qu'il ne commence pas déjà à se dire « si Jésus partait de ça ?» Mais bon, il reste quand même prudent hein, face à l'écart. Il ne peut pas s'empêcher de dire « Restez sur la réserve, mais qu'est-ce que ça représente pour autant de monde ?» Cet épisode est hautement pédagogique pour les disciples de Jésus et en fait, il en faudra encore un deuxième un peu plus tard pour que la leçon soit complète. Les moyens, les ressources, c'est son affaire. La nôtre, c'est de mettre nos moyens et nos ressources à sa disposition. Dans ses mains, elles ne sont jamais trop petites. Dans ses mains, elles ne sont jamais dérisoires, ni insuffisantes, ni même indignes. Et bien entendu, ça ne vaut pas que pour les besoins matériels. Le but de ce dimanche des solidarités, c'est de mettre en œuvre, en évidence que rien n'est jamais trop petit dans les mains de Dieu. Jamais trop jeune, on l'a déjà dit, jamais trop vieux, jamais trop malade, jamais trop timide, jamais trop banal pour participer à l'œuvre glorieuse de Dieu parmi les hommes. Au contraire, jamais trop spécial pour faire partie de son peuple. Jamais trop loin. Jamais trop loin de Dieu. La manière avec laquelle Dieu peut multiplier les choses positives à son symétrique, avec la manière avec laquelle il peut anéantir les mauvaises, aussi énormes soient-elles. Jamais trop pécheur pour être pardonné. Jamais tombé trop bas pour être relevé. Jamais trop loin pour s'approcher de Dieu, mais jamais trop proche de Dieu. Jamais trop tard, jamais trop tôt. Jamais trop de sa présence, jamais trop de sa parole, jamais trop juste, jamais trop saint pour avoir besoin de son salut. Jamais trop de fraternité, jamais trop de compassion, jamais trop d'amour envers tous les hommes. Et je voudrais terminer avec un dernier détail. Au verset 11, il nous est dit que Jésus distribua les pains, bien sûr, mais de même les poissons, et spécifié autant qu'ils en voulurent. Et là, ce détail me semble important quand même à cette époque où le pain était la nourriture de base, celle qu'on mangeait tous les jours, la viande et le poisson, c'était plus rare. Et d'ailleurs, preuve de sa valeur, c'est qu'on ne ramasse que des morceaux de pain à la fin. Tout ce qui est poisson a disparu. Et je vois dans ce détail, il distribua le poisson autant qu'ils en voulurent, le caractère abondant de la providence divine et qui ressort bien sûr aussi avec la quantité de pain qui reste à la fin. Jésus ne se contente pas de nourrir la foule, il la comble. Dans l'intention de Dieu, jamais trop de bonté envers ses enfants. Jamais trop d'amour. Nous sommes si souvent confrontés à nos propres limites que nous pouvons être tentés de les projeter sur lui. Mais Dieu n'a pas nos limites. Il n'a même pas de limites. Son amour, sa bonté, sa bienveillance n'ont pas de limites, ni quantitatives, ni dans le temps. Jamais Dieu n'a été trop bon envers nous, dans le sens où nous pourrions l'entendre humainement, c'est-à-dire clairement se faire avoir. Paul le dit aux Galates, on ne se moque pas de Dieu. Il n'est jamais abusé. On ne lui extorque rien contre son gré. Le sacrifice de son fils Jésus n'a pas été concédé par faiblesse à notre égard, mais consenti dans la force d'un amour porté à son extrême. C'est ce que nous dit Jean un peu plus loin, au chapitre 13. Alors, avec un tel Dieu, nous n'avons pas à craindre d'être ce que nous sommes. C'était dit plusieurs fois déjà depuis quelques jours, venez comme vous êtes. Ça, il le sait déjà. Nous serons toujours trop petits, trop jeunes, trop imparfaits, trop ceci ou trop cela. Nous n'avons pas à craindre de nous approcher de Jésus, car il l'a promis qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Il le déclare dans ce même chapitre 6, au verset 37. Et une fois à lui, nous n'avons pas à craindre de nous perdre, car il a fait sienne la volonté de ne perdre aucun d'entre nous, verset 39. Nous n'avons pas à craindre de lui ouvrir nos cœurs tels qu'ils sont, ni nos pensées telles qu'ils sont, telles qu'elles sont. Et ça me vient comme ça, mais je ne sais pas si c'est possible que les musiciens reviennent pour rechanter le chant. Donc, chantent beaucoup les enfants, qu'on a chanté tout à l'heure. Comment ? Tu as voulu de moi sur la terre. Est-ce que c'est possible ? Oui, manifestement, oui. Merci.